mon oncle, un fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur parole, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, la guerre touche le continent européen et tous les gouvernements se mobilisent pour se préparer à des affrontements militaires. Pendant que des populations civiles souffrent et meurent sur les champs de bataille, les marchands d'armes en profitent pour faire la promotion de leur matériel de mort. En Ukraine, la guerre pour le nucléaire remplace aujourd'hui la guerre pour le pétrole que nous avons connue en Irak. La menace de l'arme atomique pèse sur les Européens et pourtant, malgré bientôt 9 mois d'affrontements guerriers en Ukraine, le thème du pacifisme n'est pas encore d'actualité dans les pays européens. C'est même plutôt l'inverse, puisque les partis traditionnellement anti-guerre acceptent aujourd'hui encore plus de livraisons d'armes dans un pays en guerre. Alors quand j'ai entendu le 15 octobre 2022 sur France Inter, dans une émission qui s'intitule « Enquête de politique » de Thomas Legrand, quand j'ai entendu que le thème du pacifisme était abordé, j'ai tout de suite pensé que certains commençaient donc à prendre conscience des désastres humains provoqués par les guerres et à s'interroger sur les moyens de faire la paix. Dans notre émission pacifiste, je vais donc vous faire entendre plusieurs extraits de cette émission que j'ai trouvée très intéressante de Thomas Legrand, émission qui est très utile dans une période guerrière comme celle que nous vivons. Il faut dire que dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, pendant que les hommes ukrainiens n'avaient pas le droit de quitter leur pays, des hommes russes ont réussi à fuir, eux, leur pays, pour ne pas être enrôlés dans l'armée, et des soldats ont même déserté. L'un d'eux, Palev Filatiev, ancien parachutiste, a réussi à rejoindre la France et à témoigner des horreurs de son métier à la télévision française.
On s'entretuait entre militaires russes et ukrainiens, mais je voyais que nous étions aussi en train de tuer des civils. Il y a eu beaucoup de civils tués. Bien sûr, j'ai pu être cruel parfois, mais je ne pouvais pas accepter ce qui se passait. Nous arrivions et nous détruisions des villes entières, on rasait tout.
Pavel Filatiev était un soldat d'élite, un commando parachutiste. Il affirme n'avoir commis aucune exaction. Il était prêt à mourir pour son pays, mais après 2 mois de guerre en première ligne, il dénonce une guerre inutile.
Aujourd'hui, beaucoup de militaires russes refusent tout simplement d'aller à la guerre. Et ceux qui y vont n'ont pas de motivation. C'est pour cela que Poutine essaye de recruter des gens en prison et des vieux.
Blessé en mai, le soldat d'élite est écarté de la ligne de front. Fini les tranchées et les combats. C'est à l'hôpital qu'il va commencer à écrire sur la guerre. Son récit est intitulé « Zof », un appel à l'aide équivalent à un SOS. Il y raconte la désorganisation de l'armée russe et les morts inutiles. Un site internet russe publie des extraits, puis la chaîne d'un militant des droits de l'homme, Goulagou.net, invite Pavel Filatiev.
Vous êtes le seul à briser le silence dans l'armée russe. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes devenu l'homme à abattre par Vladimir Poutine ?
Moi, je voulais juste réveiller les consciences pour que les gens se rendent compte de ce qui est vrai. Si vous allumez la télévision, vous allez entendre les Russes dire qu'ils chassent les nazis d'Ukraine et que cette opération, c'est pour libérer la population de ces nazis. J'ai appris que mon commandement avait demandé 15 ans de prison pour moi, en m'accusant de diffamation contre l'armée. Et se retrouver en prison en Russie, c'est être à la merci de l'État. On peut être torturé, humilié. C'était une bonne raison pour quitter le pays. J'étais devenu pour eux un traître, un ennemi.
Il a peur pour sa vie et doit quitter le pays dès que possible. Après un mois de cavale, il est exfiltré par des lanceurs d'alerte et arrive à Paris il y a quelques jours.
Aujourd'hui, je pense que beaucoup de Russes ne veulent pas de cette guerre, malgré ce que raconte le pouvoir. L'Ukraine, c'est une honte pour notre pays.
Peut-être des Russes pensent comme lui, mais il est seul à parler, c'est un cas isolé.
Ce n'est pas un cas complètement isolé, parce qu'en réalité, des refus de combattre, on en observe un certain nombre dans l'armée russe actuellement. Ces soldats ne prennent pas forcément la parole comme Filatiev, mais en tout cas, ils refusent et ils rompent leur contrat avec l'armée. Bien évidemment, ces choses-là ne sont pas quantifiables pour l'instant et sont beaucoup moins visibles.
Mais est-ce que vous pensez qu'on va assister à des réactions de quelques mères de soldats, comme on a vu ça du temps de l'occupation de l'Afghanistan ?
Alors, les organisations des mères de soldats, qui ont été très actives à la fin de la guerre en Afghanistan, mais aussi pendant les guerres en Tchétchénie, n'ont plus la possibilité de s'exprimer publiquement. En tout cas, quand elles le font, elles doivent faire extrêmement attention. La critique, toute critique de l'armée est aujourd'hui pénalement punissable. Donc, en fait, elles se mettent en danger très clairement. Et puis, je dirais que les parents de soldats eux-mêmes se trouvent aussi dans la même situation. Parler est à la fois dangereux, et puis parler, eh bien, ça remet en cause la mort de leur enfant. Pourquoi est-ce que leur enfant est mort ? C'est plus confortable pour certains de penser qu'il est mort dans une guerre juste, pour sauver le peuple ukrainien. D'autant qu'aujourd'hui, les soldats sont surtout issus des couches les plus défavorisées de la population russe. Donc, ces parents, en réalité, qui voient revenir des cercueils ne sont pas forcément ceux qui ont la capacité de comprendre comment agir et la capacité à prendre la parole.
Après le soldat russe déserteur Pavel Filatiev, vous avez entendu le point de vue d'Anna Colin-Lebedev, sociologue et politologue française, née à Moscou et spécialiste des sociétés post-soviétiques. Elle s'exprimait sur le plateau de l'émission C'est à vous le 5 septembre 2022. À l'Union pacifiste, si nous sommes bien sûr d'accord pour soutenir les déserteurs russes, nous devons aussi citer les objecteurs et les déserteurs biélorusses et ukrainiens. En Ukraine, les hommes qui ne veulent pas combattre sont aussi mal acceptés qu'en Russie, et peut-être même davantage, car leur pays est agressé. Alors la population accepte mal le refus de défendre leur pays, les armes à la main. Le 24 octobre, dans le journal Arte, voici le reportage que l'on pouvait entendre.
Et sur le terrain, ce sont les hommes ukrainiens qui se battent. 800 000 d'entre eux sont au front, mais la conscription pourrait s'élargir. C'est pourquoi Kiev a interdit à tout Ukrainien, âgé de 18 à 60 ans, de quitter le pays. Pourtant, tous ne se sentent ni la compétence, ni la capacité de prendre les armes. Une opinion mal vue par la population et les autorités qui considèrent ces hommes comme des déserteurs. Ceux qui ne veulent pas se battre vivent donc dans la clandestinité. Rencontre signée Macha Rodet.
Même chez lui, Nikolaï n'arrive pas à se détendre. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, il a la hantise d'être appelé sous les drapeaux. Pour cet informaticien de 24 ans, ce serait un cauchemar de devoir se battre sur le front. Pour échapper au recrutement, Nikolaï a quitté son adresse officielle pour emménager dans une autre ville avec sa compagne. Pour cet entretien, il a préféré témoigner à visage caché.
Je veux à tout prix éviter le recrutement. Je n'ai pas fait mon service militaire et je n'ai jamais eu un fusil entre les mains. Je ne servirai à rien dans une guerre. Tout ce que je peux faire, c'est soutenir l'armée financièrement. J'aide mes amis qui sont sur le front à améliorer leur équipement.
Nikolaï échange sur le net avec d'autres hommes qui, comme lui, aspirent à quitter l'Ukraine, à éviter la guerre. Mais le jeune homme ne se fait pas d'illusions. En raison de la loi martiale, il n'y a pour ainsi dire pas de moyen légal de quitter le pays. Les laissez-passer exceptionnels pour des études ou des soins médicaux à l'étranger, par exemple, sont examinés à la loupe à la frontière. Chaque jour, il serait environ 200 hommes à se voir refuser l'autorisation de quitter le pays.
Peau de vin, faux documents, nos douaniers sont confrontés en permanence à des tentatives de corruption ou de fraude. Certains hommes se font passer pour des femmes et présentent à la frontière les papiers d'une de leurs parentes. L'un d'entre eux a même essayé de se cacher dans un carton rempli d'affaires pour bébés. Il y a aussi la question spécifique des études à l'étranger. Ceux qui étudient à l'étranger avant le 24 février ont le droit de repartir. Le problème, c'est que nous recevons aujourd'hui des centaines et des centaines de faux certificats de scolarité, ce qui nous oblige à ouvrir l'œil et à contrôler de près cette catégorie de candidats au départ.
Depuis le début de la guerre en février, des milliers d'hommes ukrainiens se sont inscrits au service militaire ou ont été appelés sous les drapeaux. Mais beaucoup d'autres se sentent incapables de défendre leur patrie. Certains ont même lancé une pétition pour appeler le président Zelensky à assouplir les conditions de sortie du pays.
Cette interdiction de quitter le pays n'a aucun sens. Sur 15 millions d'hommes en Ukraine, 800 000 sont dans l'armée. Pourquoi les autres doivent-ils rester au pays? Tous ces hommes qui doivent nourrir leur famille alors qu'il n'y a pas de travail en Ukraine. Si quelqu'un ne veut pas défendre son pays, doit-on l'obliger à prendre les armes? Ceux qui veulent le faire resteront de toute façon de leur plein gré.
Nikolaï aussi a signé la pétition. Aura-t-il la possibilité de quitter l'Ukraine dans un avenir proche? Il n'y croit pas vraiment.
La voix de ces hommes russes et ukrainiens qui refusent de participer à la guerre et sont prêts à prendre de grands risques pour déserter nous rappelle la chanson de Boris Vian, « Le déserteur ». Composé pendant la guerre coloniale française d'Indochine. Dans l'émission Enquête de politique de Thomas Legrand sur France Inter, une histoire de cette chanson est racontée par l'historien Tramor Kemener.
Je vous propose un joli document qui nous permet de bien comprendre la complexité du sentiment pacifiste, la chanson cultissime de Boris Vian, Le Déserteur, écrite en 1954, mais dans une version, ou plutôt dans deux versions en même temps. Nous aurons les explications après la chanson de l'historien Tramor Kemener, historien de la guerre d'Algérie et du pacifisme. Ce sont les amis François Morel et Antoine Salaire qui ont eu l'idée de cette double interprétation, superposant la version antimilitariste et la version de pacifisme intégral. C'est une création réalisée pour le Festival de la Correspondance à Manosque. Écoutez bien, surtout vers la fin.
Monsieur le Président,
messieurs qu'on nomme grands, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir.
Monsieur le Président,
messieurs qu'on nomme grands, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise.
Ma décision est prise.
Les guerres sont des bêtises.
Je m'en vais déserter.
Le monde en a assez. Depuis que je suis né,
j'ai vu mourir mon père,
j'ai vu mourir des pères,
j'ai vu partir mes frères,
j'ai vu partir des frères,
et pleurer mes enfants,
et pleurer des enfants.
Ma mère a tant souffert,
des mères ont tant souffert,
elle est dedans sa tombe,
et d'autres se gobergent,
et se moquent des bons,
et vivent à leur aise,
et se moquent des vrais,
malgré la boue, le sang.
Quand j'étais prisonnier,
il y a des prisonniers,
on m'a volé ma femme,
on a volé leur âme,
on a volé mon âme,
on a volé leur femme,
et tout mon cher passé,
et tout leur cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte, au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie
sur les routes de France,
sur la terre et sur l'onde,
de Bretagne en Provence,
du vieux au nouveau monde. Et je dirai aux gens,
refusez d'obéir,
profitez de la vie,
refusez de la faire,
éloignez la misère,
n'allez pas à la guerre,
nous sommes tous des frères,
refusez de partir,
gens de tous les pays,
s'il faut donner son sang,
s'il faut verser le sang,
allez donner le vôtre,
allez verser le vôtre,
vous êtes bon apôtre,
messieurs les bons apôtres,
monsieur le président,
messieurs qu'on nomme grand. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes
que j'emporte des armes,
que je n'aurai pas d'armes
et que je sais tirer
et qu'ils pourront tirer.
Merci François Morel de nous avoir donné cette jolie version.
Merci Thomas. Merci à Antoine Salaire aussi qui chante avec moi.
Elle nous a permis de faire la différence entre le pacifisme intégral et le pacifisme, disons, antimilitariste, hein, un peu plus agressif. Comment a réagi Mouloudji quand il a vu cette chanson, quand Boris Vian lui a apporté le texte?
J'ai le souvenir d'une interview de Mouloudji où il disait que quand Boris Vian lui avait apporté le texte, il aimait beaucoup la chanson parce qu'elle était pacifiste, parce qu'elle disait des belles choses, mais il disait à l'époque c'était le président Coty et je n'avais rien contre le président Coty. Alors il a transformé monsieur le président en messieurs qu'on nomme grand, ce qui à mon avis est quand même beaucoup moins fort.
Et vous savez que sur la pochette du disque dans la discothèque de Radio France, il y a toujours le sceau de la censure.
Ça ne m'étonne pas.
Donc c'est Boris Vian qui l'a déposé à la SACEM en février 1954.
Tramor Kemener, historien du pacifisme.
On est juste à la fin de la guerre d'Indochine, enfin, fin de la guerre d'Indochine, qu'on ne sait pas encore que c'est la fin, mais parce qu'il y a Dien Bien Phu qui va se jouer, là, la bataille de Dien Bien Phu qui se joue en ce printemps 1954, qui se conclura par les accords de Genève et l'indépendance du Vietnam, on va dire, et de l'Indochine. Alors c'est une chanson qui n'est pas forcément faite contre la guerre d'Indochine, c'est une chanson qui est plus générale que ça, qui est dans ce cadre-là, néanmoins, et donc Mouloudji va le premier l'interpréter, mais pas avec la version originelle. La version originelle de Boris Vian est celle qui est beaucoup plus antimilitariste, révolutionnaire, pourrait-on dire, voilà, avec le déserteur qui est prêt à prendre les armes contre les gendarmes, donc c'est quasiment un appel à l'insurrection, alors que la chanson qui sera chantée par le Mouloudji, parce que Mouloudji s'aperçoit bien que ça va être une chanson qui va poser énormément de problèmes, et de fait, la première fois qu'il la chante, même avec la version pacifiste, où on a quasiment on appelle les gendarmes à pouvoir tirer en fait hein, contre le pacifiste, qu'il est prêt à donner sa vie finalement pour la paix. Et cette version-là en fait se joue en plein moment où il y a la bataille de Dien Bien Phu. Dans la salle en fait il y a des huées, des bagarres qui se font parce que c'est insupportable de pouvoir entendre cette chanson-là à ce moment-là. Cette chanson par contre elle a eu un impact très important, même si elle a été interdite, censurée.
Elle a été interdite et quand on retrouve le disque dans la discothèque de Radio France, il y a toujours sur la pochette originale le sceau de la censure.
Terrible. la chanson, quand bien même elle est interdite, quand bien même elle va poser problème et quand bien elle va circuler aussi. Et finalement, elle sera chantée aussi par les personnes qui vont refuser de participer à la guerre d'Algérie qui vient juste après, puisque le déclenchement, c'est novembre 1954. Et donc, il y a eu beaucoup plus l'opportunité, si l'on peut dire, pour des jeunes gens qui devaient participer aussi à cette guerre, puisque tous les jeunes appelés du contingent, on va dire 2 millions de soldats en totalité, 1 200 000 appelés du contingent, plus les rappelés, tous les jeunes gens de 20 ans y sont allés, et beaucoup d'entre eux en fait aussi avaient cette chanson-là, notamment en tête. Il y en a quelques autres aussi qui ont été chantés à cette période-là.
C'est l'hymne des objecteurs de conscience et c'est une chanson qui devient très populaire, qui est chantée autour des feux de camp, de réunions d'ados en France depuis 1954 en fait.
Oui, complètement, oui, tout à fait. C'est vraiment une réapparition qui s'est faite avec les années 70. Serge Ujiroyo, évidemment Renaud au début des années 80. Donc ça a été interprété, réinterprété. Donc c'est une chanson qui transcende toutes les générations, qui est réinterprétée aussi aujourd'hui par des rappeurs. Donc on voit bien qu'il y a finalement un imaginaire autour de cette chanson-là. Elle continue de parler en fait aux jeunes générations.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Donnez son sang, râlez, donnez le vôtre, vous êtes bon apôtre, monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que j'emporte des armes et que je sais tirer.
Voilà le déserteur en rap par Irascible. Alors vous avez entendu, on n'est plus du tout dans le pacifisme intégral. Et d'ailleurs le clip à la fin, il y a des fusils, ça pétarade dans tous les sens. On n'est plus dans le pacifisme.
Merci à Thomas Legrand de nous avoir fait entendre à nouveau la chanson de Boris Vian dans sa version originale. Et merci aussi à Tramor Kemener de nous avoir resitué cette chanson dans le contexte politique de l'époque. Thomas Legrand a abordé le sujet du pacifisme dans son émission « Enquête de politique » sur France Inter le 15 octobre 2022. Pour en parler, il a invité deux historiens qui ont étudié les mouvements pacifistes. Jean-Michel Gieux, professeur de conférence en histoire contemporaine des relations internationales à l'université Paris-Sorbonne, et Tramor Kemener, professeur d'histoire-géographie, qui fait partie de la nouvelle génération des historiens de la guerre d'Algérie. Thomas Legrand pose cette question au début de son émission. Pourquoi n'y a-t-il plus de pacifistes, en France du moins, plus de mouvements organisés en dehors de quelques groupuscules libertaires, alors qu'il y a toujours des guerres, et maintenant même la guerre en Europe? Alors, nous pouvons bien sûr assurer Thomas Legrand en l'informant, il doit le savoir déjà, que l'Union pacifiste, section française de l'Internationale des résistants à la guerre, existe toujours, qu'elle est toujours active, ainsi que le mouvement de la paix et bien d'autres associations. Mais nous reconnaissons que la mobilisation des pacifistes contre la guerre en Ukraine est très faible, voire inexistante. Nous allons donc nous y atteler. En rappelant, comme le fait Thomas Legrand dans son émission, les premières manifestations des mouvements pacifistes au XIXe siècle.
Alors à partir de quand les hommes ont-ils commencé collectivement à se dire qu'il fallait mettre un terme aux guerres? Pour explorer les débuts du mouvement pacifiste, j'ai interrogé d'abord Jean-Michel Gieux, maître de conférence en histoire contemporaine à la Sorbonne et auteur de plusieurs ouvrages traitant du pacifisme dont « Gagner la paix » 1914-1929 aux éditions de la Sorbonne. Un mouvement organisé, structuré, qui défend la paix apparaît au début du 19e siècle dans l'espace anglo-américain, puisque la première société pacifiste naît aux États-Unis en 1815, puis en Angleterre en 1816. C'est surtout l'héritage de cette période très tourmentée qu'a vécu l'Europe, les guerres révolutionnaires et napoléoniennes, et l'idée de ces pacifistes américains qui sont des protestants quakers, qui ont un rapport à la paix très intransigeant, c'est-à-dire que nulle cause ne saurait justifier la guerre, et donc ce pacifisme anglo-saxon a un peu de mal à atteindre le continent. Il le fait pourtant dès la première moitié du 19e siècle, mais c'est surtout dans la seconde moitié du 19e siècle que va naître en France, avant la guerre franco-allemande de 1870, les premiers mouvements pacifistes, tels qu'on peut les qualifier de mouvements qui cherchent à lutter pour la paix, mais donner un côté positif à la paix, et qui ne serait pas un côté religieux, mais surtout un côté juridique. Le pacifisme apparaît d'ailleurs pas sous le nom de pacifisme, puisque ce terme des pacifistes est inventé au début du XXe siècle. À l'époque, on parle plutôt en France de société des amis de la paix, et la première société qui a un message vraiment orienté vers la paix, mais dont c'est pas le but exclusif, c'est la Société de la morale chrétienne, qui est présidée par le duc de la Rochefoucauld-Liancourt, et qui est créée donc en 1821, dans lequel, dans cette société, on va retrouver des gens assez célèbres comme Guizot, comme Benjamin Constant, comme Lamartine, etc. C'est plutôt d'ailleurs dans les années 1830 qu'ils vont réfléchir à l'idée de paix. Donc ce n'est pas une société pacifiste en tant que telle, c'est-à-dire son but n'est pas uniquement la paix. Mais là aussi, il y a un fondement religieux qui rapproche un peu finalement de l'esprit anglo-saxon où il y avait un pacifisme à forte dimension religieuse. On est autour de 1849 notamment, puisque se tient à Paris, au moment où la France est devenue la Seconde République, se tient un congrès de pacifistes et Victor Hugo a ce discours très célèbre où il parle des États-Unis d'Europe, hein, qui doivent tendre la main aux États-Unis d'Amérique.
Un jour viendra où vous France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne, absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, toutes nos provinces se sont fondues dans la France. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d'un grand Sénat souverain qui sera à l'Europe ce que le Parlement est à l'Angleterre, ce que la Diète est à l'Allemagne, ce que l'Assemblée législative est à la France. Un jour viendra où l'on montrera un canon dans les musées, comme on y montre aujourd'hui un instrument de torture, en s'étonnant que cela ait pu être. Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leurs arts, leur génie.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre un extrait de l'émission de Thomas Legrand « Enquête de politique » sur France Inter, dans laquelle l'historien Jean-Michel Gueux a parlé des origines du pacifisme en Occident. Et c'est toujours lui d'ailleurs qui explique maintenant le caractère du pacifisme au début du XXe siècle.
Les socialistes considèrent que c'est le système capitaliste qui porte la guerre. Jean-Michel Gueux, historien du pacifisme. Et que donc pour avoir la paix, il faut sortir du système capitaliste. Et Jaurès aura cette formule assez célèbre en 1895 où il dira que la société capitaliste porte en elle la guerre comme la nuée dormante porte l'orage. Mais Jaurès réussit à faire un peu la synthèse finalement entre ce pacifisme ouvrier qui est donc violemment anti-capitaliste et aussi finalement ce pacifisme plus bourgeois qui défend des méthodes juridiques et notamment Jean Jaurès est tout à fait favorable à l'idée de l'arbitrage international. Il considère que c'est l'État qui refusera l'arbitrage international qui se montrera comme l'État agresseur. Et à ce moment-là, effectivement, les ouvriers devront refuser de se battre si c'est par exemple la France qui est l'État agresseur. Qu'il y a aussi un pacifisme qui est beaucoup plus radical, qui est de l'antimilitarisme, qui est rejeté par les pacifistes bourgeois, parce que ces pacifistes bourgeois considèrent que la défense nationale l'emporte sur finalement la paix, et que si la France est agressée, il faut qu'elle se défende, donc ils ne remettent pas en cause la défense nationale, alors que les antimilitaristes considèrent que les ouvriers n'auront pas à participer à une guerre bourgeoise qui n'est pas la leur.
Mais il y a effectivement un antimilitarisme assez bruyant qui se développe à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, notamment un socialiste, Gustave Hervé, qui fait beaucoup de bruit, qui lui-même paye son combat chèrement par des emprisonnements à répétition et qui finalement donne une vision du pacifisme qui est une vision plutôt antimilitariste mais qui ne correspond pas à la majorité des pacifistes français qui sont beaucoup plus modérés, qui ne remettent pas en cause la défense nationale et qui davantage portent l'idée de régulation internationale.
La guerre en 1914 ne paraît pas si inéluctable qu'on le dit souvent. Un mouvement pacifiste, socialiste, mais aussi libéral existe. Et à la veille du conflit, le sentiment pacifiste est plus répandu que ce que l'histoire retient habituellement, nous dit Jean-Michel Guieux.
Finalement, on a vaincu au XIXe siècle un certain nombre de fléaux, comme l'esclavage, comme un certain nombre de maladies endémiques, comme la prostitution. Donc la guerre, c'est un des fléaux de l'humanité qu'il faudra bien vaincre. Et donc on est dans cette idée-là que ce n'est pas du tout une fatalité. La guerre n'est pas une fatalité.
C'est quand même une période où, pour la première fois, et l'idée que la paix est possible, la paix n'est pas forcément une utopie, mais c'est simplement le fait de prolonger les lignes des valeurs de la République et des Lumières qui s'installent en ce début de XXe siècle en France. L'idée de la paix est très importante et assez répartie, même si elle n'est pas générale. Et pourtant, on va vivre, en 1914, la guerre sans doute la plus terrible de l'histoire jusqu'à la prochaine, mais en tout cas à l'époque, la guerre la plus terrible, la plus sanglante. C'est un paradoxe.
Oui et non, c'est-à-dire que les pacifistes eux-mêmes avaient alarmé depuis longtemps sur l'idée que la prochaine guerre serait une guerre extrêmement meurtrière, catastrophique. La guerre moderne serait une tueuse d'hommes comme à nul autre pareil. Donc ils avaient alerté depuis longtemps à cette idée-là, en disant qu'il faut effectivement préparer la paix pour éviter ce fléau. Mais maintenant que la guerre est déclenchée, que la France est attaquée, eh bien c'est le réflexe patriotique qui joue. Parce que ces pacifistes ne sont pas des antipatriotes, ne sont pas des apatrides. Ils ont toujours soutenu la défense nationale. Ce ne sont pas des objecteurs de conscience comme on pourrait le trouver dans les milieux anglo-américains.
C'était possible d'éviter la guerre ? Vous, votre avis d'historien, est-ce que le rapport de force dans la société française pouvait amener un cabinet Jaurès-Caillaux, hypothétique, à conserver la paix ?
Très clairement, ce n'est pas l'idée de la revanche qui inspire la guerre de 1914.
C'est pas pour récupérer l'Alsace et la Lorraine.
Ce n'est pas pour récupérer l'Alsace et la Lorraine. Non pas que les Français aient oublié la perte des chères provinces disparues, mais il y avait plus de 40 ans que ces provinces étaient dans l'orbite allemande. Et finalement, l'idée des pacifistes, notamment, c'était de trouver une solution à l'intérieur peut-être de l'ensemble allemand avec plus d'autonomie, ou en tout cas, peut-être qu'on pouvait trouver, sur la question de l'Alsace-Lorraine, une solution qui serait pacifique. Les pacifistes avaient bien conscience que c'était quand même un problème qui empêchait l'amitié franco-allemande et un rapprochement durable entre la France et l'Allemagne. Mais ils pensaient qu'il y avait d'autres moyens que la guerre.
La butte rouge, c'est son nom. Le baptême suit un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin. Qui boit de ce vin-là, boit les larmes des copains. Sur cette butte-là, il n'y avait pas de gigolette, pas de marlou ni de bon muscadin. Ah, c'était loin du moulin de la galette et de Paname qui est le roi des patelins. Qu'elle en a bu des larmes, cette terre, larmes d'ouvriers, larmes de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres ne pleurent jamais car ce sont des tyrans. La butte rouge, c'est son nom. Le baptême suit un baptême où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin. Qui boira ce vin-là, boira le sang des copains. Sur cette butte-là, on y faisait pas la noce, comme à Montmartre où le champagne coule à flot. Et les pauvres gars qui avaient laissé des gosses, ils faisaient tant de terribles sanglots. Ce qu'elle en a bu du beau sang, cette terre sans d'ouvriers, sans de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, on tue que les innocents. La butte rouge, c'est son nom. Le baptême se fit un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, y pousse du raisin. Mais moi, j'y vois des croix portant le nom des copains. Sur cette butte-là, on y refait des vendanges. On y entend des cris et des chansons. Filles et gars, doucement, y échangent des mots d'amour qui donnent le frisson. Peuvent-ils songer dans leurs folles étreintes qu'à cet endroit où s'échangent leurs baisers, j'ai entendu la nuit monter des plaintes et j'y ai vu des gars au crâne brisé. La butte rouge, c'est son nom, baptême suite un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin qui boit de ce vin-là, boit les larmes des copains.
Après cette chanson de Monteus, La Butte Rouge, interprétée par les Motivés du groupe Zebda, voici un nouvel extrait de l'émission de Thomas Legrand, Enquête de politique, émission consacrée au pacifisme. L'historien Jean-Michel Guilleux explique la signification d'une expression apparue pendant la guerre de 14 et souvent utilisée par des militaires encore aujourd'hui, la guerre pour la paix.
Cette idée de la guerre pour la paix, qu'on retrouve dans la propagande officielle, c'est quelque chose qui fait écho quand même dans l'esprit d'un certain nombre de soldats des tranchées.
Qu'est-ce que ça veut dire la guerre pour la paix ?
Eh bien, ça veut dire que cette guerre doit être menée pour abattre notamment le militarisme allemand, l'impérialisme germanique, qui empêche l'Europe d'arriver à se mettre d'accord pour établir une paix durable. Et en quelque sorte, le sacrifice que vont endurer les combattants dans les tranchées, eh bien, doit amener une paix durable. Il y a vraiment l'idée que l'on se bat pour amener à ses enfants la paix qui sera une paix longue et durable. Et on trouve cette idée-là dans toutes, je dirais, les sphères de l'opinion publique française, puisque même, je dirais, dans le camp nationaliste, par exemple, le commandant Drian, en 1915, il se fait acclamer devant la Chambre des députés en évoquant l'idée d'une dernière guerre. Et il y a des applaudissements, car il dit, après cette guerre, nous aurons 100 ans de paix.
Donc la der des ders, voilà, au départ, c'est pas simplement après l'horreur des tranchées, c'est simplement abattons le dernier potentat antidémocratique, anti-républicain d'Europe, l'Allemagne prussienne, et faisons triompher la démocratie. C'était une guerre démocratie contre autocratie ou contre une Allemagne militarisée.
Bon, sauf qu'il y avait quand même l'alliance franco-russe, où la société russe n'était pas particulièrement démocratique. Mais il y a bien l'idée que l'Allemagne s'opposait déjà depuis longtemps à la construction de la paix. Et cette opposition de l'Allemagne, il faut la faire remonter aux conférences internationales de la paix qui se déroule à La Haye en 1899 et en 1907, où, face à la résistance de l'Allemagne, on n'arrive pas à s'accorder sur l'idée de l'arbitrage obligatoire, qui était quand même la grande idée portée par les Hambourgeois, la délégation française et un certain nombre de participants à ces conférences, qui ne sont pas des conférences pacifistes, qui sont des conférences de diplomates qui réunissent en 1907 44 nations. Et ce qui explique que finalement, en 1914, les pacifistes se rallieront à l'effort de guerre parce qu'il y a une guerre juste, une guerre pour défendre le sol national qui est agressé injustement, et l'Allemagne qui elle-même viole les conventions qu'elle a signées, notamment s'agissant de la neutralité de la Belgique et du Luxembourg.
La guerre, la boucherie de 14-18 ressuscite un mouvement pacifiste très puissant, bien sûr, le pacifisme post-traumatique.
Il faut bien penser que dans la société française des années 20, il y a 6 millions d'anciens combattants, de gens qui ont approché de très près le feu, qui ont survécu et qui n'ont qu'une obsession finalement, c'est que la guerre ne revienne jamais. Donc ces gens-là installent durablement un idéal de paix. Mais au-delà de cela, il y a aussi toujours des associations pacifistes qui sont les héritières des associations du 19e siècle. Souvent, ce sont les mêmes personnes qui, désormais, militent pour la Société des Nations qui a été mise en place à la suite du traité de Versailles en 1919. Mais cette Société des Nations est une institution qui est encore jeune, fragile, qui ne répond pas complètement à l'idéal que l'on avait forgé du temps de guerre, où en France, on avait imaginé une Société des Nations qui serait en quelque sorte musclée, qui serait en quelque sorte accompagnée d'un bras armé, qui, lorsqu'un État renierait sa parole et se lancerait dans une guerre d'annexion, de conquête, eh bien, trouverait face à lui une communauté internationale soudée qui viendrait le remettre dans le bon chemin. Donc c'est l'idée de la sécurité collective. Et on a vu dans les années 30 à quel point cette sécurité collective n'avait pas réussi.
Et dans l'état d'esprit de la population, le poids de ces slogans, la der des der, plus jamais ça, est-ce que ce sont simplement des slogans militants ou c'est quelque chose de très répandu ?
Alors, ça se répand de plus en plus, c'est-à-dire que plus on arrive vers les seconde moitié des années 20 et plus on voit à quel point, notamment dans les livres d'histoire, dans les programmes scolaires, la dimension pacifique joue un rôle très important. Il est vrai que les instituteurs avec les anciens combattants sont vraiment ceux qui installent le sentiment pacifiste au cœur
oui, de la ville, les villages. Il y a les monuments aux morts qu'on installe, il y a tous les estropiés dans les rues, sur les bancs, dans les squares. Et la guerre est encore
visible,
très présente.
Et palpable.
Visible.
Voilà, c'est la grande différence finalement avec l'avant 1914, c'est que avant 1914, finalement, les anciens combattants de 1870 étaient assez peu visibles dans la société. Là, désormais, on est face à un grand nombre de mutilés, un grand nombre d'anciens combattants, de gueules cassées et de veuves éplorées. Donc là, le sentiment de la paix devient une sorte d'urgence et il y a un homme qui va incarner, justement, qui va sentir le sentiment de la population et se mettre complètement en adéquation avec ce sentiment, c'est Aristide Briand, qui est le ministre des Affaires étrangères entre 1925 et 1932, donc une grande continuité, qui est la tête de la diplomatie française et qui va véritablement incarner lui-même cette idée de paix. On va le surnommer le pèlerin de la paix et il a en 1930 cette formule disant « tant que je serai là, il n'y aura pas la guerre ». Et donc il incarne, il personnifie ce combat pour la paix et il a un soutien très large du Parlement et de l'opinion. Il y a un vrai courant briandiste qui s'installe et qui devient de plus en plus important pendant les années 20 et la seconde moitié des années 20.
Alors maintenant, que dire du pacifisme face au nazisme et au fascisme avant la Deuxième Guerre mondiale ? Les pacifistes qui se regroupent dans la Ligue internationale des combattants de la paix de 1931 à 1939 sont très nombreux. Le journaliste Victor Méric fonde le journal pacifiste La Patrie humaine et la Ligue organise des conférences avec Marcel Capi, Jeanne Humbert, Robert Jospin, Georges Pioche, René Dumont et bien d'autres. Des intellectuels se réunissent en Provence, au Comtadour, autour de l'écrivain Jean Giono et dénoncent les préparatifs de guerre. Tous espèrent que leurs écrits et leurs discours pourront éviter la guerre. Mais ils ne réussiront pas à convaincre les peuples de refuser de se lancer dans des affrontements meurtriers. Et certains intellectuels, comme Jean Giono, seront condamnés pour pacifisme et emprisonnés. L'historien Jean-Michel Gueux, dans l'émission de Thomas Legrand, nous parle des forces de paix qui ressurgissent après la Seconde Guerre mondiale.
Les forces de paix au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sont surtout du côté de la gauche communiste, c'est-à-dire que l'Union soviétique va faire en sorte de développer un grand mouvement en faveur de la paix et que désormais le camp de la paix est complètement identifié dans cette guerre froide qui s'amorce au camp soviétique.
Tout le monde était d'accord sur une chose, à bas la bombe, vive la paix. En 1950, les partisans de la paix avait lancé l'appel de Stockholm, réclamant l'interdiction de la bombe atomique. Mais la rivalité des blocs faussait les cartes. Au fur et à mesure, le mouvement de la paix contrôlé par les communistes devenait un instrument de la guerre froide entre les mains de Staline, contre les Américains, contre le pacte atlantique. Staline qui lui aussi avait la bombe atomique et multipliait les essais. C'était dans les pays de l'Est, en URSS et en Chine surtout, que l'appel recueillait la plus grande partie de ces 273 millions de signatures. Alors choisir cette paix-là, n'était-ce pas simplement choisir l'un des deux camps, le communisme? Beaucoup d'intellectuels célèbres nous y invitaient. L'écrivain soviétique Ilya Ehrenburg, le peintre Picasso et l'archevêque de Canterbury, qu'on avait surnommé l'archevêque rouge. La colombe qu'avait choisi Aragon pour symboliser la paix devenait plus célèbre que la Joconde. Picasso l'avait dessinée. Il avait 70 ans. Il était au fait de sa gloire.
C'est une paix instrumentalisée, un pacifisme instrumentalisé par les soviétiques.
Alors oui, mais sauf que ceux qui participent, et notamment le mouvement de la paix, qui va se constituer autour de 1950, regroupent aussi de véritables militants pacifistes sincères, qui s'affolent de l'arme nucléaire. Il faut bien penser que ce qui s'est passé en 1945 sur Hiroshima et Nagasaki va entraîner une sorte d'horreur généralisée sur cette arme de destruction massive. Et donc on est à l'âge atomique, et la défiance et la crainte qu'un la bombe atomique va pousser un certain nombre de Français, et notamment on pourrait parler de l'appel de Stockholm en 1950, qui va recueillir peut-être 10 millions de signatures du côté des Français, plusieurs centaines de millions de signatures dans le monde, qui montrent aussi qu'il y a une véritable crainte d'une guerre nucléaire et de la destruction en quelque sorte de l'Europe sous le feu atomique. Donc ce n'est pas uniquement une instrumentalisation du pacifisme par le camp soviétique, ça répond aussi à une véritable inquiétude qui est claire dans une partie de la société française.
Tu n'en reviendras pas, toi, qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille. Que nos buts a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre, et toi, le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux. On part, Dieu sait pour où, ça tient du mauvais rêve. On glissera le long de la ligne de feu. Quelque part, ça commence à n'être plus du jeu. Les bons hommes là-bas attendent la relève. Roule au loin, roule le train des dernières lueurs. Les soldats assoupis que ta danse secoue laissent pencher leur front et fléchissent le cou. Cela sent le tabac, la laine et la sueur. Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancée de la terre et promis des douleurs, la veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit, déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places, déjà le souvenir de vos amours s'efface, déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri.
Merci d'écouter l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Alors après ce poème de Louis Aragon mis en musique par Léo Ferré, je suis content de vous faire entendre ce que dit l'historien Tramor Kemener dans l'émission Enquête de politique de Thomas Legrand sur un pacifiste bien connu des lecteurs de l'Union Pacifiste, je veux parler de Louis Lecoin. La place qui lui est réservée dans cette émission grand public de France Inter montre l'importance de son engagement antimilitariste et son grand courage pour arracher le statut des objecteurs de conscience au général de Gaulle.
Un courant de pacifisme minoritaire va se développer à la faveur des guerres de décolonisation d'Indochine et d'Algérie. Et pour bien comprendre les atermoiements, les faiblesses et aussi les réussites du mouvement pacifiste, il faut revenir sur la vie extraordinaire d'un personnage, un héros du pacifisme, Louis Lecoin. Il nous faut pour ça repartir un peu en arrière, au début du XXe siècle.
Grande figure que Louis Lecoin, figure libertaire.
Tramor Kémener, historien du pacifisme.
Qui a traversé effectivement tout le XXe siècle et qui naît dans le Cher à la toute fin du XIXe même, qui est appelé à participer déjà à la Première Guerre mondiale et qui dans ce cadre-là en fait va diffuser des tracts qui appellent justement à la fin des combats, qui sont véritablement dans une fibre anarchiste, antimilitariste, et ce qui le conduit en fait à passer toute la guerre quasiment en prison. Donc voilà, on voit quelqu'un qui est libéré mais remis en prison parce que refusant à nouveau de participer à cette guerre. Donc un refus radical, entier et plein de la guerre.
Paix immédiate. Malgré tout l'effort des pacifistes sincères, le sang coule. Déjà presque toute l'Europe est dans la guerre. Le monde entier va sombrer dans le sang des hommes. Tous le savent, tous le sentent. La triste infinie des mobilisés eux-mêmes et la douleur pathétique de leurs proches en sont la preuve.
Louis Lecoin, des décennies plus tard, relit pour la télévision son tract pacifiste de la Première Guerre mondiale.
Pas de fleurs au fusil, pas de chants héroïques, pas de bravo au départ des militaires. Et l'on nous assure qu'il en est ainsi chez tous les belligérants. La guerre est donc condamnée dès le premier jour par la plupart des participants de l'avant et de l'arrière. Alors faisons vite la paix. N'attendons pas qu'elle nous soit offerte par des fauteurs de guerre. Le prix de la paix ne sera jamais aussi rubineux que le prix de la guerre. Car on ne construit rien avec la mort, on peut tout espérer avec la vie. Que les armées, laissant la parole à la raison, déposent donc les armes. Que le cœur humain trouve son compte dans une fin très rapide de la guerre. Réclamons la paix, exigeons la paix.
Dans notre émission Civis Pacem, je me permettrai de corriger une toute petite erreur de l'émission de Thomas Legrand. Ce n'est effectivement pas la voix de Louis Lecoin que nous avons entendue dans la lecture de ce tract paix immédiate, mais la voix de notre secrétaire actuel de l'Union pacifiste, Maurice Monté. Maurice Monté a longtemps travaillé avec Louis Lecoin et il continue encore aujourd'hui à s'occuper de l'association pacifiste, l'Union pacifiste. Alors le tract de Louis Lecoin a été signé entre autres par le philosophe Alain, Victor Marguerite, Félicien Chalet, Lucien Jacques, Henri Poulaille, Marceau Pivert, Georges Yvetot, Henri Janson, Jean Giono.
Et quand arrive la guerre de 1939, en fait, il y a cet appel à la paix immédiate que lance Louis Lecoin. Sauf que, évidemment, on n'est pas dans le même cas de figure.
Là, ça devient compliqué quand même, parce qu'on arrive avec la montée des périls, comme on dit dans les manuels d'histoire. Et finalement, il s'agit quand même de se battre contre les nazis, les fascismes. Comment se situe Louis Lecoin dans ce cadre-là ?
Louis Lecoin, en fait, il appartient à cette tendance-là qu'on appelle justement le pacifisme intégral. C'est-à-dire qu'on refuse toute guerre, quelle qu'elle soit. Et si on doit lutter, c'est par des moyens qui sont, on va dire, non-violents en tant que tels. Sauf que, évidemment, face à des nazis, on ne peut pas être dans ce même cas de figure. En tout cas, c'est ce que disent certains. Et évidemment, on est bien dans ce cas de figure, parce que il y a l'invasion qui se passe, les camps de concentration qui se mettent en place. Il est impossible, en fait, de lutter de manière pacifique, justement, dans ce cadre-là.
Mais alors, du coup, Louis Lecoin, on arrive à rencontrer quelqu'un comme Marcel Déat, quand Marcel Déat est encore socialiste.
Voilà, et donc effectivement, alors Louis Lecoin est lâché aussi par les personnes, donc il y a cet appel à la paix immédiate qui est lancé, et en même temps, il y a des personnes qui se disent non, c'est pas possible, finalement, qui retirent leur nom aussi. Le tract est quand même diffusé à 100 000 exemplaires, hein, donc c'est quand même de manière très large, et comme beaucoup en fait de personnes à cette période-là, et la période qui est vraiment dans la mise en place du régime vichyste, finalement, il y a une sorte d'entre-deux, et donc on peut considérer qu'il fait partie des personnes qui discutent avec les collaborateurs, ils peuvent passer du côté du collaborationnisme. Alors, ce ne sera pas le cas, il va aller dans des camps d'internement, mais il est vraiment complètement marginalisé, parce que dans les camps d'internement, évidemment, on va trouver des personnes qui ont voulu lutter contre les nazis et qui se sont retrouvées ensuite prisonniers.
Il s'oppose même à la résistance.
Ah, bon, en tout cas, il est marginalisé par rapport aux résistants. Hein. Il est interné, et une fois qu'il va pouvoir sortir, certains disent même qu'il est sorti tôt, finalement, hein, et une fois qu'il sort, en fait, il rentre chez lui, et on n'entend plus parler de lui. Donc, à la libération, il est totalement marginalisé.
Alors, Louis Lecoing se fait oublier à la libération, mais en réalité, il ne disparaît pas tout à fait, et pas pour longtemps.
Il y a un événement qui me paraît important à souligner, dans lequel Louis Lecoing va jouer aussi, c'est le procès d'un objecteur de conscience qui s'appelle Jean-Bernard Moreau. Donc là, on est juste après la Seconde Guerre mondiale, et Jean-Bernard Moreau refuse de participer, refuse d'aller sous les drapeaux, est un objecteur de conscience. Il est condamné pour cela par le tribunal militaire de Paris, et en même temps, en fait, que lui est condamné, on a un prêtre qui était collaborationniste, qui, lui, est libéré. Et donc ce deux poids deux mesures, en fait, est insupportable pour beaucoup de personnes. Du coup, la médiatisation du procès, notamment par Louis Lecoing, va lancer une nouvelle campagne en faveur de l'objection de conscience, avec plusieurs dépôts de loi en faveur d'un statut des objecteurs de conscience à partir des années 40-50. Et on va avoir aussi la création, parallèlement à ça, avec Gary Davis, des Citoyens du Monde. Gary Davis, c'est un citoyen américain qui assiste à ce procès-là, et lui est tellement choqué, en fait, qu'il déchire ses papiers américains, d'autant plus qu'on est au début de la guerre froide aussi, et donc lui, il veut la paix dans le monde, et il se déclare, à partir de ce moment-là, citoyen du monde, ce qui va donner, en fait, lieu à un mouvement associatif aussi relativement puissant dans ces années-là.
Louis Lecoing devient l'inlassable militant pour la reconnaissance de l'objection de conscience, cette possibilité, qui n'est pas encore reconnue dans ces années d'après-guerre, de se soustraire au service militaire en invoquant sa conscience et son refus d'utiliser les armes.
Là où l'objection de conscience va véritablement être repensée et reprendre des vigueurs, c'est au cours de la guerre d'Algérie. D'un point de vue très personnel, Louis Lecoing perd son épouse en fait au début de la guerre d'Algérie. Il est vraiment affecté par cela, et puis à un moment donné, en fait, il se dit « toutes mes dernières forces en fait, d'homme âgé, je vais les mettre en faveur d'un statut des objecteurs de conscience. »
Il y avait un objecteur de conscience, André Chalard, qui avait été conduit comme objecteur de conscience à Tindouf, aux confins de la frontière algérienne et marocaine. Là, il a vu des cas d'esclavage. Il les a dénoncés en Algérie. Il a été expulsé honteusement d'Algérie pour avoir dénoncé des cas d'esclavage que le gouvernement algérien niait.
Il y a deux cas de figure par rapport à ces objecteurs de conscience et les personnes qui refusent la guerre d'Algérie.
Tramor Kemener, historien du pacifisme.
D'un côté, en fait, on a ce qu'on appelle des objecteurs intégraux. Quelles que soient les circonstances, ils refusent de participer. Il y en a une centaine à peu près. Ils sont en prison, notamment Edmond Chaguenet, qui, lui, a passé 9 ans en prison en tout.
Ça, c'est de la non-violence.
Là, vraiment, du côté des non-violents, oui. Alors, beaucoup, en fait, de ces objecteurs-là aussi appartiennent à la secte des témoins de Jéhovah. Du coup, ils sont plutôt dans un milieu très confidentiel, on va dire, et ils sont plutôt marginalisés de ce fait-là. Néanmoins, Louis Lecoing dit, quel qu'il soit, en fait, ils ont le droit de refuser de participer à la guerre, de ne pas porter l'uniforme, de ne pas porter les armes, de ne pas tuer. Donc, il va aussi les défendre. Et puis, au fur et à mesure, en fait, aussi, on a des personnes qui refusent la guerre d'Algérie en tant que telle. Ils refusent d'aller contre cette guerre-là.
Pour des raisons politiques, pas pour des raisons forcément non violentes.
Exactement, ouais.
C'est une mauvaise guerre.
C'est une mauvaise guerre. Voilà. Dès 1955, la question se pose. D'ailleurs, il y a un tract qui est diffusé à l'église Saint-Séverin en 1955, en septembre 1955, où ils disent « Si nos bras tremblent en tirant sur nos frères musulmans, c'est parce que notre conscience se soulève. Nous n'appelons pas à un refus d'obéissance individuelle, mais à un refus d'obéissance collectif. » Ils en appellent justement à la société française pour refuser ce conflit-là. On est en septembre 1955. C'est le tout début, en fait, où il y a une mobilisation des soldats dans la guerre d'Algérie. C'est donc très, très tôt dans cette guerre. Ça impulse un mouvement, finalement, au fur et à mesure, qui va se retrouver avec des personnes qui vont soit refuser d'obéir en tant que telles aux ordres et qui vont se retrouver en prison, soit vont carrément s'insoumettre ou déserter et partir dans la clandestinité, voire en exil aussi, en Suisse, en Belgique ou ailleurs, parce qu'ils refusent de participer à cette guerre-là. Et Louis Le Coin arrive dans ce cadre-là, et il se dit, il faut faire quelque chose pour toutes ces personnes-là. En janvier 1958, il lance sa campagne. Au fur et à mesure de la guerre, l'idée va faire son chemin. Elle va faire son chemin, même jusqu'auprès du général de Gaulle.
Et puis peut-être que l'idée d'insoumission, c'est quand même le général de Gaulle. Pour lui, tout militaire et tout général qu'il était, résonnait avec sa jeunesse.
Bien sûr, et en 1940, il a été condamné pour désertion, hein, condamné à mort pour désertion, donc ça revêtait quelque chose aussi pour lui, et il pouvait évidemment très bien accepter que d'autres personnes refusent de participer, et il voyait avec un bon œil aussi la figure de Louis Le Coin, c'est quelqu'un qu'on peut considérer qu'il l'appréciait, un temps soit peu.
Il y avait d'ailleurs, sur cette question même du pacifisme, une sorte de connivence entre les chrétiens et les anarchistes ou une certaine gauche. Même les chrétiens, comme le général de Gaulle, qui était chrétien et militaire, pouvaient comprendre, même s'ils ne partageaient pas, la vie des pacifistes intégraux.
Complètement, oui. À la base, même c'est plus chez les chrétiens, mais encore plus chez les protestants. C'est vraiment une idée protestante, finalement, de ce droit à la désobéissance, puisque ça fait partie, en fait, de l'être intrinsèque, de sa relation avec Dieu directe, qui peut l'amener, en fait, en conscience, à refuser tel ou tel ordre. Et donc, voilà, avec des personnes, évidemment, comme Henry David Thoreau, par exemple, aux États-Unis, puis plus tard aussi avec Martin Luther King, évidemment.
Et le général de la Bollardière aussi.
Alors, voilà, ça, c'est pour les protestants. Mais évidemment, il y a aussi quelques catholiques qui ont été vraiment dans cette notion-là et dans cette même veine.
L'abbé Pierre.
Si nous étions les représentants de mouvements pacifistes, nous serions certainement des utopistes. Car, nous le savons, le pacifisme jusqu'à présent, par des expériences malheureuses, a été essentiellement quelque chose de sentimental. Nous sommes, je le crois pour la plupart, en tout cas pour le mouvement universel pour la Confédération mondiale, des fédéralistes, c'est-à-dire des gens qui croient qu'il y a des problèmes juridiques, des problèmes techniques et économiques qui sont à la base de la paix, comme il y a des problèmes de technique qui sont à la base de la santé tout court.
Un général, le général de Bollardière, ancien résistant et officier d'active, est sanctionné, renvoyé de l'armée, pour s'être insurgé contre l'utilisation de la torture.
Sortant de la résistance, j'avais chanté moi-même le chant des partisans, « Ami, quand tu tombes, un autre ami sort de l'ombre à ta place ». Et je savais très bien qu'on n'arriverait absolument pas à démanteler les réseaux terroristes, et que nous courions là à un échec et à une prise de conscience de plus en plus grande par tout le peuple algérien de la nécessité pour lui de se rendre indépendant et de se rallier au FLN.
Ce sont des grandes figures et on trouve à la fin de la guerre d'Algérie à la fois cette campagne de Louis Le Coin qui commence.
Tramor Kémener, historien du pacifisme.
Qui porte ses fruits aussi parce que d'abord on a une limitation du nombre de condamnations à 5 années en tout pour les objecteurs de conscience, donc ça limite. Certains sortent de prison à ce moment-là. Puis à 3 années, donc là on limite encore plus leur temps d'emprisonnement.
Il y a les amnisties aussi.
Il y a les amnisties aussi, oui, tout à fait. À partir de 60, on a aussi une autre organisation qui se met en place parallèlement à Louis Le Coin, qui est l'action civique non violente. Et l'action civique non violente, c'est justement cet ensemble, ce regroupement entre des chrétiens et des pacifistes libertaires, des anarchistes, que l'on peut retrouver. Ils sont de différentes obédiences, ils sont croyants, non-croyants. On a des personnes qui viennent d'un peu partout et qui finalement se disent qu'ils peuvent refuser en fait aussi de participer à ce conflit-là. Ils préfèrent être emprisonnés et passer du temps en prison, résister de manière non-violente avec des manifestations qu'ils mettent en place et qui sont des manifestations très novatrices en France, avec des personnes qui s'enchaînent, par exemple, qui se donnent le même nom de l'objecteur de conscience. Alors on se retrouvait 15 Pierre Boisgontier, par exemple, pour donner le nom d'un des premiers objecteurs de conscience de ce mouvement-là. Et donc le temps que la police retrouve qui est le vrai Pierre Boisgontier, ils ont fait parler d'eux, ils ont manifesté. Tout ça demande du temps. Et puis après, il y a le temps aussi du procès, pour le procès Boisgontier, qui va être évidemment médiatisé aussi. Donc tout ça, ça fait partie aussi de cette campagne-là qui se met en place et qui regroupe un petit peu les différentes tendances des objecteurs de conscience. En 1962, c'est la fin de la guerre. Louis Le Coin n'en peut plus. Il n'en peut plus des promesses. Et donc, à 70 ans passés, il se dit maintenant, c'est maintenant ou jamais, il n'y a plus la guerre. Il faut le statut des objecteurs de conscience.
Mais on n'a pas perdu son temps. Si mauvaise que soit la société,
n'est-ce pas,
on a empêché du malheur. Parce que c'est ça, empêcher du malheur.
Louis Le Coin se met en grève de la faim. grève de la faim illimitée. Il a plus de 70 ans et il fait 20 jours de grève de la faim. Il est vraiment cadavérique. Il échappe à la mort, si on veut. Hein. Et le général de Gaulle finit par accepter qu'il y ait, en fait, un statut des objecteurs de conscience qui soit mis en place. Finalement, c'est acquis à partir du 21 décembre 1963. Le statut des objecteurs, Louis Lecoing a réussi, si l'on veut, à obtenir ce statut-là.
Merci à l'historien Tramore Kemeneur d'avoir retracé l'itinéraire pacifiste de Louis Lecoing dans l'émission Enquête de politique de Thomas Legrand sur France Inter. La déclaration de Louis Lecoing est toujours sur la première page de notre journal de l'Union pacifiste. Je la cite. « S'il m'est éprouvé qu'en faisant la guerre, mon idéal avait des chances de prendre corps, je dirais quand même non à la guerre, car on n'élabore pas une société humaine sur des monceaux de cadavres. » À l'Union pacifiste, nous n'oublions pas aussi l'avocat Jean-Jacques de Félis, qui a défendu de nombreux pacifistes insoumis et même déserteurs pendant la guerre d'Algérie et après la guerre d'Algérie. Et il a fallu attendre 1981, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, pour que le statut de l'objection de conscience soit enfin complété et démilitarisé.
Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance, c'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place, ces casques lourds qui nous font face, nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée, notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance, c'est une évidence. Nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans aucune condition de ressources, ils voudraient que l'on parte au pas de course, acheter des biens de grande consommation au premier tir de sommation. Que nous leur portions cette marchandise, objet de toute leur convoitise, leur précieux, leur cœur de cible, du temps de cerveau disponible. Oh qu'ils chérissent tant ce cœur de cible, ce temps de cerveau disponible. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance, c'est une évidence. Nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence. Nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Prédicateur de la sainte finance, toxicomane accro à la croissance, nous sommes de ceux qui vous désobéissent, la plèbe blasphématrice. Jetez-nous l'opprobre, jetez-nous la pierre, vos grenades suffiraient-elles à nous faire taire? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance, c'est une évidence. Nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence.
C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence.
En 1983, la loi précise les conditions de l'objection de conscience et entre cette date et la fin du service national en 2002, plusieurs milliers de jeunes gens ont accepté de faire un service civil dans les eaux et forêts, dans diverses associations humanitaires ou caritatives plutôt qu'un service militaire. Pour la première fois, le pacifisme intégral est reconnu par le législateur comme une conviction respectable et non pas comme une trahison ou une lâcheté.
François Fatou, alors la guerre, vous n'avez pas voulu la faire, vous avez refusé donc de servir et vous êtes un objecteur de conscience.
Il faut savoir qu'avant 1983, toute information était interdite sur l'objection. Donc avant 1983, je n'aurais pas pu m'exprimer au cours d'une émission comme celle-ci. Depuis 1983, il suffit de recopier une lettre formulaire pour des motifs de conscience. Je m'oppose à l'usage personnel des armes et je demande donc le bénéfice du statut. On envoie cette lettre à son bureau du service national et le statut est automatiquement accordé. Je pense que c'est un énorme progrès par rapport à ce qui se passait avant 1983.
Alors le statut est immédiatement accordé et à ce moment-là, on fait un service civil.
On fait un service civil. Alors c'est un service civil de 2 ans. Alors, car il faut savoir que les gouvernements ont toujours souhaité pénaliser l'objection de conscience par rapport à ceux qui font leur service militaire.
À la fin des années 60, au début des années 70, la jeunesse des pays occidentaux est largement pacifiste. Hein, c'est la génération Peace and Love, les baby boomers, futurs boomers nés dans l'euphorie de l'après-guerre. Ils s'opposent à la culture nationaliste et militaire et à la guerre au Vietnam. Dans les années 80, c'est la présence de l'armée américaine sur le sol européen et l'installation des missiles en Allemagne pour faire face aux lance-missiles soviétiques dressés contre l'Europe de l'Ouest qui nourrit le renouveau du pacifisme européen. S'agissant du pacifisme, il y a une question délicate. Où commence-t-il? Où finit-il? Faut-il vouloir la paix dans le monde comme toute Miss France qui se respecte, ou plus sérieusement comme tout militant d'une association non-violente pour être un pacifiste? Ou suffit-il de vouloir éviter la guerre, non pas en général et par principe, mais cette guerre, celle qui se prépare parce que ce serait une mauvaise guerre? Souvenez-vous, 2003, les États-Unis voulaient envahir l'Irak sur un mensonge et ce jour-là, beaucoup de Français étaient plutôt satisfaits d'être Français.
Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs. Et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes.
Dominique de Villepin, c'est du pacifisme ou pas ?
Oui et non, en quelque sorte. D'un côté, on peut penser oui, parce que...
Tramor Kemener, historien du pacifisme.
C'est un discours qui refuse la guerre en s'appuyant sur des valeurs de droit international, en s'appuyant sur des valeurs morales et qui contribuent en fait à aller dans ce sens-là de, voilà, d'un refus de la guerre en tant que telle dans des circonstances données. D'autres vont considérer que non, nous ne sommes pas forcément dans un discours pacifiste en tant que tel, puisque Dominique de Villepin ne récuse pas la guerre en général et toutes les guerres en tant que telles. C'est une guerre en particulier à un moment donné.
Et au nom du droit ?
Au nom du droit, effectivement. Et donc
on revient au début de notre émission et au début du siècle.
Oui, complètement, ouais, tout à fait. C'est en s'appuyant effectivement sur ces notions de droit et de même en revenant justement sur les conférences de La Haye, par exemple, et des éléments comme ça, où on s'appuie sur le droit pour refuser la guerre. Donc dans un cadre donné, en tant que tel, et cadre international aussi.
En France, ceux qui refusent que l'on aide militairement l'Ukraine, principalement à droite, à l'extrême droite, mais pas seulement, cachent mal un anti-américanisme atavique ou une défiance envers les démocraties libérales. En fait, non, le pacifisme n'a plus cours en tant que tel en France. Nous retrouvons Jean-Michel Dieu, historien du pacifisme, et il a une explication, ou du moins une hypothèse.
Je dirais qu'aujourd'hui, la cause de la paix, finalement, elle est concurrencée par d'autres causes très très importantes. Je pense que sans faire de parallèle exagéré, on pourrait dire que la paix était une préoccupation dans les sociétés, on va dire, de la première moitié du XXe siècle ou de la fin du XIXe siècle, était une préoccupation qui était à peu près équivalente à celle aujourd'hui de l'écologie, par exemple, hein, où c'était le grand sujet. C'est-à-dire qu'à la fin du XIXe siècle, du XXe siècle, tout le monde parlait de la paix, de la guerre, comment l'éviter, quelle serait la prochaine guerre, comment ça allait se passer, etc. Donc il y avait une autre obsession autour de la guerre et de la paix. Aujourd'hui, l'obsession, elle est peut-être davantage autour des préoccupations, je dirais, qui concernent à la fois l'écologie, que va devenir notre planète, et toutes les crises aussi qui marquent ce début du XXe siècle.
Voilà, l'écologie remplace le pacifisme, ou peut-être l'intègre. La conclusion de Jean-Michel Dieu sera celle de notre émission.
La conclusion de l'émission de Thomas Legrand sur le pacifisme me semble assez juste. Quand on voit aujourd'hui comment les jeunes se mobilisent massivement pour s'opposer à la destruction de la planète, mais très peu pour s'opposer aux dégâts catastrophiques des guerres. Mais il me semble que les choses commencent à bouger. J'en veux pour preuve cette émission de Thomas Legrand sur une chaîne de radio de grande écoute, et nous ne pouvons que l'en remercier. Je voudrais aussi signaler la publication de l'article de Serge Halimi dans le numéro de novembre du Monde diplomatique, sous le titre « Une gauche désarmée face à la guerre ». Serge Halimi écrit « De Jean Jaurès à Aristide Briand, de Lénine à Clara Zetkin, lorsqu'une guerre éclatait en Europe et menaçait de l'envahir, tribuns de gauche et manifestants pacifistes donnaient de la voix. Rien de tel dans le cas de l'Ukraine. Alors que le conflit s'envenime et que les médias s'enflamment, la gauche européenne est aphone. » Depuis février dernier, le risque d'une guerre nucléaire a fait irruption dans notre actualité quotidienne. Pourtant, dans la plupart des pays du monde, les partis politiques regardent ailleurs. Les candidats américains au Sénat, l'Assemblée qui traite le plus directement de politique étrangère, se sont affrontés pendant des heures sans prononcer le mot « Ukraine ». Nulle manifestation d'ampleur n'est convoquée sur ce thème. La diplomatie paraît au point mort, la quasi-totalité des médias parie que la menace nucléaire ne constitue qu'un chantage de la Russie, destiné à faire oublier l'enchaînement des défaites militaires de son armée. « L'ours est acculé », nous explique-t-on. « Alors il gronde, il trépigne, inutile de s'en inquiéter. Sur le terrain, l'intensité des combats s'accroît, les bombardements succèdent au sabotage, mais ailleurs, à gauche en particulier, on s'obstine à parler d'autre chose. » Serge Halimi a raison. Les médias occidentaux s'intéressent plus aux champs de bataille de la guerre en Ukraine qu'aux causes de la guerre, qui sont avant tout, et comme d'habitude, économiques. Comme l'écrit le journaliste Marc Andeveld dans son dernier livre intitulé « Guerre cachée, les dessous du conflit russo-ukrainien », aujourd'hui, l'émotion sature le discours médiatique et masque les guerres secrètes qui se déroulent en coulisses du théâtre des opérations ukrainiennes. Dans un monde entré dans une nouvelle guerre froide, où l'énergie devient une véritable arme, les États-Unis, la Chine et la Russie jouent tous, à travers ce conflit, leur participation sur l'échiquier mondial du nucléaire.
Donc on peut considérer que cette guerre a pour base le nucléaire. Je conseille donc aux auditrices et aux auditeurs de notre émission Civis Pacem la lecture des articles et des livres de ces journalistes indépendants. Et pour terminer notre émission, voici une chanson de Kadour Adadi qui s'intitule « Citoyen du monde » et qui correspondra bien à l'esprit de notre émission. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Pas d'hymne guerrier, pas de patrie, pas de président. Je n'ai pas d'autre armée que celle de ceux qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent. Je n'ai pas d'homme à exploiter, pas de richesse à créer pour mon compte. Je n'ai pas de territoire à défendre contre ces pauvres gens qui viennent des quatre coins du monde. Fallait crever de faim ici tous ensemble. Soyez les bienvenus. Plutôt mourir que de vivre dans l'abondance, couvert de vêtements quand tellement d'autres sont nus. Oh yo, oh yo yo yo, yo. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Il y a le bon étranger, celui que tu accueilles les bras grands ouverts. Et il y a le mauvais, celui que tu pourchasses dès qu'il a franchi ta frontière. Il y a le bon, celui qui te sera utile. Et il y a le truand, celui que tu ne veux surtout pas voir arriver dans ta ville. Si tu cherches la brute, va là où on parle dollar cash et pétrole brut. Mais ne cherche surtout pas le shérif, je l'ai shooté quand il m'a dit qu'il ne défendait que les riches. Oh yo, oh yo yo yo. Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Il y a tellement de petits sur cette terre, tellement facile à abattre. Vois toutes ces frontières, ce ne sont que de sombres cicatrices. Plaies ouvertes d'anciennes conquêtes, vestiges de vains sacrifices. Tant de pauvres soldats envoyés au charbon sont morts pour elle. Combien au chaud la victoire est champagne par leur colonel. Il n'y a qu'un seul rêve que je poursuive, une seule phrase qui en moi résonne. Par-delà les frontières, la terre doit appartenir à tous ou à personne. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Oh yeah.
partisans d'un monde sans frontières. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières.